France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandinga, Housey.
Haliam, Radio Rosana, Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Mes instructions viennent de plus haut, mais plus haut jusqu'où? Dans Un jour dans le monde, nous revenons sur l'explosion du gazoduc de Nord Stream par un commando ukrainien dont le cerveau présumé est sur le point d'être extradé pour son procès en Allemagne. Pourquoi Israël se fiche-t-elle complètement d'être détestée par une partie du monde? Louise Baudet a la réponse, elle remet le monde à l'endroit. Vous verrez aussi que quand Erdogan veut fluidifier le Bosphore, il n'y va pas par quatre chemins. C'est le reportage d'Un jour dans le monde ce soir.
Il bloquait toutes les issues et criait qu'on devait quitter notre maison. Ils ont défoncé notre chambre à coucher alors qu'on était encore dedans.
Un reportage signé Marie-Pierre Véraud que vous découvrirez autour de 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le Malawi et ses élections façon retour vers le futur. Et Caroline Gillet, qui visite chaque semaine les institutions européennes, est restée à la Commission avec sa commissaire belge très atypique. Tout au long de cette heure aussi, Djoubaka nous a concocté une programmation musicale très Robert Redford. Vous verrez. Allez, le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Ces énormes bouillonnements agitent désormais la mer Baltique, au large de l'île danoise, de Bornholm. Le plus petit fait 200 mètres de diamètre. Le plus grand se déploie sur 1 km. Des cercles à la surface de l'eau.
Bonsoir Morgane Fermalka.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste freelance, vous avez longtemps travaillé pour Intelligence Online. Mes instructions viennent de plus haut. La vérité sur l'explosion de Nord Stream, c'est ce que vous venez d'écrire, publié chez Stoxx. Ce qu'on entend, c'est juste après la découverte, si je puis dire, de cette explosion. C'est en septembre 2022, on était sur France 24, exactement le 27 septembre. Aujourd'hui, Morgane Fermalka, il y a un juge italien qui a ordonné l'extradition vers l'Allemagne d'un Ukrainien soupçonné d'être le cerveau de cette fameuse expédition, donc 100% ukrainienne. On y reviendra. On reviendra aussi d'ailleurs sur ce personnage-là. Et pourtant, si on faisait le test toutes les deux maintenant, si on descendait dans la rue et qu'on demandait aux gens « Est-ce que vous vous souvenez de Nord Stream? Est-ce que vous savez qui est responsable de l'explosion de ce gazoduc ?» Il y a toutes les chances pour que les gens nous répondent « Ben, c'est la Russie ». Pourquoi tant d'idées reçues? On la vit dure, à votre avis, sur cette affaire?
Alors, je pense qu'il y a toutes les chances pour que les gens ne sachent plus
même
très
plus
bien
que
de quoi
c'est Nord Stream, en plus.
Ouais. Et à tort, parce que Nord Stream demeure un enjeu absolument stratégique de la sécurité européenne et de la sécurité énergétique européenne. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que le travail des journalistes qui continuent à couvrir cette affaire et à dévoiler les participants est très, très important. Et dans cette mesure, le fait qu'on sache aujourd'hui, qu'on connaisse aujourd'hui l'identité de plusieurs participants clés à cette opération, qui sont donc ukrainiens, des citoyens ukrainiens résidant en Ukraine. C'est très important parce que ça permet de justement effectivement rappeler un peu au public ce qui s'est passé et rappeler que oui, donc quand il y a une grosse explosion, quand il y a un acte de sabotage, quelque chose d'un peu choquant, ce n'est pas toujours la Russie, malgré ce qu'on pourrait avoir envie de croire.
Je vais laisser nos lecteurs découvrir, vos lecteurs, découvrir cette tentative d'interview que vous faites avec le patron d'une entreprise qui se trouve être celui qui probablement a affrété le fameux bateau qui s'appelle l'Andromeda et par lequel tout commence. Je dis ça pour donner vraiment envie, parce que c'est comme ça que votre livre s'ouvre et on voit aussi ce que ça veut dire que d'enquêter sur Nord Stream quand même quand on est journaliste. Ça se lit vraiment aussi comme un roman d'espionnage. Et je me demandais, moi, au fond, si la raison pour laquelle on n'arrivait pas, et peut-être même toujours aujourd'hui, à se dire c'est l'Ukraine qui a fait sauter Nord Stream, est-ce que c'est parce que l'Ukraine ne peut pas être le méchant, en fait, dans notre manière de voir les choses? Et d'ailleurs, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, qui avait beaucoup à perdre, donc il y a aussi des choses comme ça. Ou aussi, parce qu'on ne veut pas savoir qu'elle a les moyens de mener une opération de cette envergure-là, en fait. Est-ce qu'il y a les deux à la fois?
Je pense que oui, c'est un challenge quand on couvre cette affaire et qu'on en parle. C'est qu'on fait émerger une vérité qui dérange. Elle dérange effectivement parce que si l'Ukraine sanctionne ou organise une attaque sur une infrastructure civile qui est par moitié financée et développée par l'Europe, c'est effectivement un problème. Et c'est un problème pour l'Allemagne qui a eu du mal à rallier son opinion publique autour d'un soutien massif à l'Ukraine.
Et qui a perdu beaucoup, parce que c'était son gaz, d'une certaine façon, qui passait par ce gazoduc-là, c'est sur lequel elle avait misé un immense pourcentage de ses infrastructures et de son chauffage.
Oui, tout à fait. Le réseau intérieur de gaz allemand était prévu pour acheminer et acheminer aussi dans les pays voisins le gaz. Après, le deuxième élément, je pense que c'est que c'est pas qu'on n'a pas envie de savoir que l'Ukraine est capable de faire ça, c'est qu'on n'a pas l'habitude de la savoir capable d'une telle opération. C'était une opération quand même, d'un point de vue complètement opérationnel, très admirable, très efficace. Avec 300 000 euros, 300 000 dollars, grosso modo, c'est une opération qui a mis hors d'usage une infrastructure qui a coûté 20 milliards d'euros à la construction.
Et puis c'est pas des petits plongeurs, c'est pas un petit plongeon, on met un explosif et on s'en va. Ce sont des plongeurs extrêmement expérimentés, extrêmement entraînés. Donc il y a tout ça, ça veut dire qu'il faut aussi avoir su exactement, alors on y viendra peut-être, mais par les Anglais par ailleurs, en partie par la CIA aussi. Donc ça veut dire qu'il a fallu anticiper tout ça, et peut-être que là aussi on a encore du mal à intégrer, à se dire, l'Ukraine aujourd'hui c'est ça aussi, c'est cette capacité-là en fait. Diriez-vous, Morgane Fermalka, que l'Ukraine a appris plus vite que n'importe qui, ou qu'elle avait déjà de toute façon tout ça, toute cette structure, ce savoir-faire qui était prêt pour ce genre d'opération?
Non, l'Ukraine a développé ce savoir-faire à partir de 2014.
Donc depuis l'invasion de la Crimée.
Oui, en coopération. Alors depuis Maïdan et l'invasion de la Crimée, depuis le changement de cadre dans le gouvernement ukrainien qui est devenu tout à fait pro-européen au lieu d'être en partie pro-russe. À cette époque-là, l'Ukraine s'est tournée décidément vers l'OTAN et principalement vers la Grande-Bretagne. Et les États-Unis qui ont été les premiers à partager un savoir-faire opérationnel très très pointu. Cela dit, je pense que les capacités ont fini par dépasser les attentes de ces partenaires qui avaient partagé leur savoir, parce que ce qui n'était pas forcément prévu, c'est que l'Ukraine fasse preuve d'une audace tactique et même, je dirais, stratégique qui dépasse celle de l'apprenti.
Et surtout indépendante, en fait, parce que y a un vrai questionnement dans votre livre. Est-ce que les Américains ont essayé de dissuader et n'ont pas réussi à dissuader? Est-ce qu'on leur est passé dessus? Le fin mot de l'histoire, c'est quoi, au fond, Morgane Fermalka?
Alors, les Américains... Alors, bon, tout pointe vers
Je fais un aparté pour les gens qui nous écoutent. Les Américains ont tout intérêt à ce que ce gazoduc explose, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à se servir en gaz liquéfié venant des États-Unis. Donc, en termes d'opérations commerciales, ils font partie des gagnants. Quand on se pose la question à qui profite le crime, dans la case A, il y a les Américains.
Alors, bon, ce qu'il faut savoir quand même pour répondre à la question de qui savait, qui a participé, c'est que c'est quand même des affaires qui sont très cloisonnées. Donc, on ne peut pas dire les États-Unis savaient ou les États-Unis ont participé, la France savait. Il faut parler des officines, des agences précises qui ont pu être impliquées. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des chefs d'État, la question d'un sabotage de gazoduc russe a été envisagée.
En tout cas, c'est à un moment, ça a été dans les conversations. C'est ça qu'on comprend
entre,
en vous.
L'administration de Joe Biden, celle du gouvernement de Boris Johnson et la Bankova de Volodymyr Zelensky. Ce qu'on sait ensuite, avec certitude, c'est que dans la première moitié de 2022, donc quelques mois avant les explosions, les services de renseignement néerlandais ont notifié la CIA d'une opération en préparation. Et la CIA a dit « Ah, très intéressant, on ne savait pas, qu'est-ce que ça vaut ?» Voilà. Et la CIA donc a recommuniqué cette information-là à des services européens.
La question qui émerge aussi de votre livre, c'est qui savait, y compris en Ukraine, c'est-à-dire jusqu'à quel point Volodymyr Zelensky a su, jusqu'à quel point a-t-il été donneur d'ordre? Est-ce qu'au contraire, tout se passe au-dessous de lui pour que précisément il ne soit jamais inquiété ni jamais mouillé? De ce que je comprends en vous lisant, c'est que ça monte au moins jusqu'à Zaloujny, qui était le chef d'état-major à l'époque des armées ukrainiennes. Pas plus haut, est-ce qu'on peut répondre de manière affirmative à ça ou pas?
Alors, il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que d'une part, on n'a pas de preuves irréfutables sous la forme d'un verbatim ou de documents.
Ce serait tellement trop facile.
Voilà. Ouais. Le deuxième élément, c'est qu'une opération comme ça n'est pas possible sans
que sans un aval très haut placé,
le sache. Mmh. Pourquoi ? Parce que en fait, elle implique, elle ne peut pas impliquer qu'une seule agence ou qu'une seule branche des forces armées. C'est un partenariat entre de nombreuses branches. Et donc nous, ce qu'on sait, c'est que nécessairement le général Zaloujny, mais aussi le GEUER, donc le GUR, l'agence de renseignement secret, militaire,
le renseignement militaire,
voilà, était impliqué. Et si le GUR était impliqué, c'est-à-dire que ça veut dire que Kirillo Budanov, le chef du GUR, était impliqué. Et Kirillo Budanov est l'un des plus loyaux soutiens, l'un des bras droits sécuritaires de Zelensky. Et il est impensable qu'il ait pu mener une opération, sanctionner, valider ou avoir connaissance d'une opération comme ça sans en informer le chef de l'État. La question critique, c'est de faire en sorte que le déni plausible soit conservé, c'est-à-dire qu'on puisse toujours dire le chef de l'État n'était pas au courant. Mais c'est impossible qu'il ne l'ait pas été.
Je vous écoute et en vous lisant, effectivement, on a l'impression d'ouvrir des boîtes au fur et à mesure, parfois des boîtes de Pandore. Vous racontez, vous faites quand même on a la même carte de presse, Morgane Fermalka, mais on ne fait pas le même métier, la vache, vous m'avez impressionné plus vraiment à de multiples instants. Vous dites par exemple, dans votre manière de travailler, c'est un consortium qui a travaillé, hein, vous n'étiez pas toute seule, enfin il y a vraiment du monde dans tous les pays qui sont hyper bien informés. Vous dites que, évidemment, vous avez des taupes qui sont très bien placées. Vous dites aussi que certaines infos sont plantées à l'intérieur des rapports, qui sont de fausses infos, précisément pour au cas où il y aurait une fuite, se dire s'il y a une fuite, au moins on a planté un truc qui va les mettre sur une autre voie. Ça s'appelle le canary trap. Je l'ai vraiment appris en vous lisant. J'ai appris aussi que vous saviez, enlever les bandeaux quand on caviarde les documents sur PDF. Vous savez enlever ces trucs-là. Combien vous êtes là-dessus pour arriver à cette conclusion-là? Parce que finalement, j'ai l'impression que ça a été presque rapide, en fait. Entre le moment où ça saute et le moment où on se dit « 1-1 », il ne faut pas suivre les pistes évidentes, c'est finalement assez rapide.
Je pense que, pour répondre à votre dernière question, les pistes évidentes, il n'y en a pas tant que ça, donc on les a toutes suivies. Le groupe, c'est un groupe qui, finalement, c'est assez compliqué de travailler en consortium parce que c'est beaucoup de coordination. Ben ouais. Mais sur cette affaire, personne n'aurait pu le faire tout seul. Mm-hmm. D'abord parce qu'il y a une masse d'informations qui est absolument extraordinaire. Et puis, il y a beaucoup d'aspects de l'affaire sur lesquels enquêter. Mais aussi parce que, justement, c'est une affaire qui était tellement tabou, qui était tellement entourée de secrets, qu'on a été obligé de mettre
Vos infos en commun. Évidemment, et vos efforts. Ce qui est frappant en vous lisant, c'est que donc on découvre à quel point effectivement les renseignements, les opérations ukrainiennes peuvent être. Vous le dites d'ailleurs en conclusion à l'israélienne, c'est-à-dire qu'on est capable vraiment, j'allais dire one shot en mauvais français, mais d'aller faire une grosse opération. On découvre que les services russes, en revanche, sont un peu pieds nickelés sur les bords. En tout cas, ils ont des gros sabots. C'est un peu ce que vous dites. Et ce qu'on découvre aussi, surtout, c'est que nous en Europe, alors on voit passer des Polonais. Vous l'avez dit, on voit passer un peu l'Europe du Nord aussi, mais on a surtout l'impression qu'on regarde les grands jouer pendant que nous, on est tout petit au-dessous, en fait.
Alors, les Russes pieds nickelés, dans une certaine mesure, mais c'est aussi une image dont ils jouent,
ouais.
Pour intimider, pour désinformer. L'Europe spectatrice sur cette affaire, tout à fait. Les renseignements français ont été un petit peu à la traîne, en tout cas. Ils se sont renseignés sur l'affaire après que le sabotage ait eu lieu, alors que c'était d'autres pays qui finalement ont mené la danse. Et je pense que, pas seulement en France, mais dans l'OTAN et dans tout un tas de pays, il y a d'énormes frustrations qui demeurent vis-à-vis des jeux de désinformation aussi de la part de l'Ukraine et des États-Unis sur ce dossier.
Écoutez, qu'ils vous lisent, comme ça ils vont sûrement apprendre beaucoup de choses. On va suivre le procès peut-être qui va suivre en Allemagne, en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Morgane Fermalka, ça s'appelle « Mes instructions viennent de plus haut, la vérité sur l'explosion de Nord Stream » et c'est publié chez Stock. Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage chez nous. La suite, c'est pour vous, Louise Baudet, vous remettez le monde à l'endroit.
La réprobation qui s'étend et pourtant Gaza brûle, pourquoi Israël semble imperméable aux sanctions internationales.
Et c'est juste après Raindrops Keep Falling on My Head de B.G. Thomas, ça date de 69, écrit pour Butch Cassidy and the Kid avec Redford, évidemment, dont on parlera longuement tout à l'heure dans le téléphone sonne.
Too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Raindrops Keep Falling on My Head, B.G. Thomas, ça date donc de 69 et c'est la chanson du film Butch Cassidy and the Kid avec Robert Redford. Louise Baudet remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Une question, Louise, pourquoi Israël se fiche de la réprobation internationale ?
Ouais, c'est une déclaration passée un peu inaperçue dans le fracas de l'offensive terrestre dévastatrice lancée la nuit dernière à Gaza. Une adresse de Benjamin Netanyahou à son pays. Nous entrons dans une sorte d'isolement, a dit hier le Premier ministre israélien, et nous devons nous adapter à une économie présentant les caractéristiques d'un marché fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que face à un isolement croissant, diplomatique et économique, Israël doit se préparer à l'autosuffisance et ce n'est pas une mince affaire. C'est en effet un petit pays qui importe beaucoup de matières premières et exporte beaucoup de technologies. Une économie de transformation riche de sa matière grise qui dépend des marchés étrangers. Les exportations de biens et de services représentent le quart du PIB israélien. Et la déclaration de Netanyahou hier a eu un effet immédiat, chute de la bourse et réprobation des milieux économiques pour qui un marché autarcique serait un désastre.
Alors, de quelles sanctions économiques d'abord parle-t-on, Louise ?
D'abord, des ventes d'armes, secteur florissant pour Israël, encore plus depuis le début de la guerre à Gaza. Et oui, c'est une réalité. Les exportations d'armes israéliennes ont atteint l'an dernier 14 700 millions de dollars. Résultat historique, ce que le ministère de la Défense israélien appelle les résultats opérationnels de la guerre stimule la demande mondiale. Systèmes de défense aérienne, mais aussi missiles et roquettes, achetés pour plus de la moitié par des pays européens. L'UE est d'ailleurs, tout secteur compris, le meilleur partenaire commercial d'Israël. C'est dire si l'enjeu économique est majeur. Alors plusieurs pays européens, Espagne en tête, annulent leur contrat d'armement avec Israël et prennent des sanctions économiques, comme la Belgique récemment. Mais l'accord d'association qui régit les relations commerciales entre l'Union européenne et l'État hébreu, cet accord tient toujours. Plusieurs États membres, dont l'Allemagne, refusent de le remettre en cause. La Commission de Bruxelles
doit d'ailleurs en reparler demain et elle promet des annonces.
Menace de sanctions économiques donc et accusation de génocide.
Oui, accusation portée pour la première fois aujourd'hui par une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. La justice internationale est, vous le savez, saisie. Sur le plan diplomatique, la guerre d'influence est déclarée entre Israël et un groupe de pays emmené par la France et l'Arabie Saoudite. Groupe de pays qui s'apprête à reconnaître l'État de Palestine lundi prochain en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et le conflit gagne tous les terrains, y compris les moins politiques. L'étape finale de la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, annulé le week-end dernier. L'Eurovision, menacée de boycott. Le concert d'un orchestre dirigé par un chef israélien, déprogrammé en Belgique.
La réprobation s'étend donc, Louise, et pourtant, Gaza brûle.
Oui, frappes aériennes massives la nuit dernière, puis les chars israéliens qui font irruption dans Gazaville. La grande offensive terrestre annoncée depuis des semaines a commencé avec le soutien indéfectible des États-Unis. Le gouvernement israélien ignore toutes les critiques, seul compte l'allié américain et celui-ci lui est acquis. Alors qu'importe l'opprobre venant de l'étranger, et c'est aussi une affaire de psychologie nationale, m'expliquait récemment un diplomate israélien. L'état d'esprit qui prévaut, c'est « nous contre le monde », mentalité d'un peuple assiégé. Autre mot utilisé hier par Benjamin Netanyahou.
Merci beaucoup, Louise Baudet, tous les jours dans Un jour dans le monde. C'est en Turquie que nous sommes pour le reportage d'Un jour dans le monde avec ce projet fou et magnifique selon les termes du président turc, Canal Istanbul. Canal Istanbul, c'est l'idée ni plus ni moins de creuser une sorte de deuxième Bosphore à 45 km du premier, une autre trouée de la mer Noire jusqu'à la mer de Marmara. Mais officiellement, il s'agit de fluidifier la circulation sur le Bosphore. Sauf que cet immense chantier est très controversé, les habitants sont contre, le maire d'Istanbul, İmamoğlu, est contre aussi. Sauf qu'il a été mis en prison et que depuis, les travaux ont repris de plus belle. Et surtout, les expropriations pour faire de la place. Le reste, c'est Marie-Pierre Véraud qui raconte.
Ils ont le malheur d'habiter au bord du tracé du futur canal Istanbul. Nous sommes à Şahin Tepe, un arrondissement éloigné de l'ouest de la mégapole. Durant 130 jours, les habitants ont tenté de sauver la maison de Gülüfe Çetinkaya des griffes des bulldozers qui venaient raser le quartier en vain. Gülüfe nous emmène devant un tas de gravats et raconte.
Ils ont bloqué toutes les routes d'accès. Les policiers ne laissaient passer personne. Ils étaient plusieurs milliers. Il y avait de tout, des pelleteuses, des camions, la police anti-émeute avec des canons à eau. Ils bloquaient toutes les issues et criaient qu'on devait quitter notre maison. Ils ont défoncé notre chambre à coucher alors qu'on était encore dedans. Puis ils nous ont arrosé de gaz lacrymogène. Je suis tombée par terre et si je ne m'étais pas poussée, ils m'auraient piétinée. On avait une maison et maintenant nous sommes des locataires.
Dans ce quartier encore rural et populaire, mais déjà balafré par quelques tours d'immeubles flambant neufs, qui détonnent alors que l'on croise vaches et poules dans les rues. Mustafa Yılmaz, le quincailler, dénonce des plans de zonage modifiés en toute illégalité pour faire main basse sur leurs terres.
Ici, 60% des gens sont propriétaires de leur maison et de leur terrain. Mais dans le cadastre, cela n'existe pas, ils ne mettent que les maisons. En une nuit, tu peux tout perdre. Par exemple, si tu as un terrain de 200 mètres carrés, ils le saisissent et en compensation, ils te donnent trois petits bouts. Un ici, un autre là, un dernier ailleurs, tout est morcelé.
Les recours en justice sont bloqués et les travaux redoublent, dit-il.
Dès qu'ils ont emprisonné le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, les travaux se sont accélérés. Plus loin, il y a un barrage qui fournit l'eau à 1 million de personnes. Ils l'ont asséché. Ils ont commencé un chantier énorme. Ils veulent construire 22 000 appartements. Le directeur d'ISKİ, le service des eaux d'Istanbul, a ordonné la destruction des immeubles. Eh bien, il a été arrêté. Nous, en tant que peuple, on est complètement démunis.
Mais tous promettent de continuer à se mobiliser. À quelques kilomètres de là, ce qui est présenté comme le centre de ce projet pharaonique, Sazlı Dere, son lac, ses forêts, ses champs, ce sont les terres les plus fertiles et un réservoir d'eau pour Istanbul. Mais les travaux emportent tout sur leur passage. L'organisme de logement collectif Toki met à nu les terres pour construire des tours d'habitation. Swat tient un jardin de thé qui surplombe la vallée. Il sait que son petit coin de paradis ne va pas résister longtemps.
Le projet de l'État, c'est de construire 24 000 appartements ici. Il y a aussi des travaux pour raccorder les autoroutes et faire un pont. C'est nouveau, les travaux ont débuté il y a 2 mois.
Dans un balai incessant des engins de chantier.
Les routes sont étroites ici. Cela fait beaucoup de poussière et de dégâts. Récemment, un camion a arraché un arbre, un autre a défoncé l'escalier de la mosquée. C'est devenu un problème dans toute la Turquie. Ils bétonnent tout ce qui est vert. Ils veulent faire ce canal pour aller jusqu'en mer Noire. Ils vont creuser à 25 mètres de profondeur sur 100 mètres de large et accorder des permis de construire. C'est très mauvais pour l'environnement. Ici, tout est très beau. Qui voudrait qu'une telle beauté soit détruite ? Moi, je préfère voir un oiseau comme celui-là plutôt que des bâtiments. Mais toute cette beauté, on va la perdre.
Qu'il voit ou non le jour, ce projet que le président Erdogan lui-même avait qualifié de fou est le prétexte à la saisie de terre, à la bétonisation accélérée des derniers espaces verts d'Istanbul.
Marie-Pierre Véraud pour le reportage, merci beaucoup. La suite, c'est ce que Guillaume Audat était déniché sous les radars.
Bali, prise en étau entre surtourisme et dérèglement climatique.
Et c'est aussi la suite des aventures de Caroline Gilet à la Commission, Caro.
Oui, une commissaire, c'est comme une ministre, mais de 27 pays et qui vit sous la pluie à Bruxelles.
Allez, hommage à Robert Redford dans la bande-son d'Un jour dans le monde avec Jim Gilstrap, I've got you where I want you. Dans quel film ? Merci beaucoup.
Ah pardon,
Les 3 jours du Condor, hein, je vous jure. Il n'y en a pas un qui suit, c'était elle.
Bah alors.
Yeah.
Got you what I want you, Jim Gilstrap, c'est la BO des 3 jours du Condor de Sydney Pollack. Aïe, Guillaume Audat, sous les radars.
On a commencé de telle nouvelle ça avec Massacre la Baudrière.
Et d'abord en Haïti, Guillaume, où nous disent présentateurs d'une petite chaîne télé locale, un massacre dans un petit village de pêcheurs a eu lieu.
Le petit village de La Baudrie, précisément à 90 km au nord de Port-au-Prince. La Baudrie, où 42 habitants au moins, dont des enfants ont été exécutés, une famille décimée, des habitations brûlées. Témoignage d'un responsable local qui vient tout juste de nous parvenir. Les faits se sont déroulés jeudi dernier en réalité, mais c'est seulement hier que le gouvernement en Haïti a révélé et condamné ce déchaînement de violence. Une énième vengeance après la mort d'un chef de gang local suivi d'une descente dans d'autres villages pour y semer la terreur. Sur l'île, la violence est endémique, mais depuis 2 ans, ce petit pays s'enfonce dans une spirale meurtrière que ni l'État presque failli, ni la communauté internationale ne parvient plus à enrayer. État presque failli, Haïti, parce que là-bas, ce sont les gangs qui font la loi, surtout à Port-au-Prince, où jusqu'alors la violence restait cantonnée. Mais ce qui inquiète avec ce massacre, c'est que désormais cette violence s'exporte hors de la capitale.
De l'autre côté de la planète, nous sommes à Bali, submergés par les eaux.
Oui, c'est le climat, son dérèglement qui là-bas frappe les hommes et les femmes et les enfants.
et les touristes qui voyagent en masse pour profiter des splendeurs de cette île la plus célèbre d'Indonésie. Mais Bali a été englouti, c'est ce qu'a dit l'homme qu'on a entendu, un touriste justement, un Australien, c'est pas loin hein, l'Australie. Il est à moto cet homme, il filme et raconte les dévastations dont il est témoin, ce que lui et les habitants ont vécu, des pluies torrentielles pendant 12 heures, des eaux qui montent à toute vitesse. On voit justement ce motocycliste circuler dans des rues inondées, il y a de la boue et des débris. Ici, un immeuble effondré, au moins une vingtaine d'habitants sur cette île sont morts. Il y a désormais des centaines de sans-abri, des inondations meurtrières jamais vues depuis 10 ans. Alors, des orages soudains, ça arrive hein, là-bas, surtout en saison sèche, sauf qu'à une telle intensité, le phénomène se produit désormais de plus en plus fréquemment. Autre point spécifique à Bali, surfréquenté, je le disais, d'après les autorités, quantité de détritus ont bouché les systèmes de drainage sur place et ont entraîné des débordements d'eau incontrôlables. Surtourisme et dérèglement climatique ne font pas bon ménage.
Vous voyez cette urne ? C'est ce que dit cet homme qu'on entend. Il s'adresse à une foule qui l'écoute. On l'entend d'ailleurs, la foule. Eh bien, c'est dans cette urne que vous déposerez vos bulletins.
Voilà, sous-entendu, urne vide. Petite scène électorale ce matin à Lilongwe, la capitale du Malawi au sud-est de l'Afrique, où ce mardi, 7 200 000 électeurs élisent leur président dans un pays où l'histoire a tendance à bégayer. Le dirigeant en exercice, Lazarus Chakwera, pasteur devenu chef d'État, se représente jusqu'ici. Pourquoi pas ? Et d'autant plus qu'en 2020, il avait balayé grâce à la rue qui s'était enflammée son adversaire de l'époque, un certain Peter Mutharika, lequel s'était proclamé vainqueur après avoir bourré les urnes. Chakwera s'était donc imposé, il avait promis un nouveau Malawi, mais 5 ans plus tard, le décor n'a pas vraiment changé, flambée des prix, et puis promesse anticorruption aux oubliettes. En clair, les espoirs de la population ont été douchés. Et qui, à moins d'une grosse surprise, est donné vainqueur par les sondages ? Le fameux Mutharika, 85 ans. Retour vers le futur ? Non, retour à la case départ.
Guillaume Oda, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Le mardi, Caroline Gillet en goguette à Bruxelles, au milieu des institutions européennes, ouvre les portes.
France Inter, le 18-20.
Et qui est là ? C'est une dame qu'on a rencontrée la semaine dernière, yes. Caroline. C'est la suite de votre rencontre avec Adja Labib, qui est commissaire européen.
Oui, belge, au profil atypique. On l'entendait dans le dernier épisode. Sa mère, immigrée algérienne à Bruxelles, était femme de ménage dans les bureaux que sa fille occupe désormais. Adja Labib est la fille aînée de 5 enfants. Et elle a débuté sa carrière comme journaliste avant de se voir un jour proposer le poste de ministre des Affaires étrangères belge. Les avis sur son bilan sont partagés. Puis l'année dernière, son nom est proposé pour partir à l'Europe. Elle y est, on entre ensemble dans la commission.
C'est un peu un conte de fées quand même cette histoire, parce que là il y a toutes les portes qui s'ouvrent, on vous reconnaît.
Oh, ça a mis quelques semaines quand même. Hein.
Ah oui.
Ah, bah qui c'est là ? Benoît, comment ça va ?
Quel beau pull Benoît, j'adore. Ouais.
Benoît est notre assistant, mais aussi il fait une tarte à la patate douce qui
mais
est
non.
Une tuerie.
Très intriguant, j'ai trouvé une recette en ligne, je la mettrai sur la page de la chronique. On monte à son étage, le 9, et la commissaire veut encore une fois me présenter toute son équipe. Et notamment un certain Brian, qui s'occupe des discours et de la com.
Brian is in the kitchen. Let's see.
Il y a aussi son chef de cabinet, diplomate, qui l'a aidé à se préparer pour son audition. C'est quoi l'audition ? Tous les 5 ans, après les élections européennes, le Conseil de l'UE, dont on a parlé ici il y a 2-3 semaines, se réunit et chaque État membre propose un candidat comme commissaire. Il y a ensuite des négociations avec la présidente de la Commission pour attribuer les portefeuilles. Puis tous les commissaires proposés sont soumis à un vote d'approbation du Parlement européen. Ils doivent répondre aux questions des eurodéputés.
C'est très intimidant. Personnellement, le plus dur d'abord, c'est la matière.
Durant la précédente mandature, il y avait une commissaire qui s'occupait exclusivement de l'égalité.
J'ai la gestion de crise, l'aide humanitaire, l'égalité. Et donc c'est préparer toutes des stratégies. Répondre lors d'une audition avec un Parlement qui est de plus en plus polarisé, avec des extrêmes de plus en plus représentés, c'est quasi impossible.
On s'installe ensuite dans le bureau de la commissaire, je sors mon carnet de questions. Elle regarde son téléphone, une photo de sa petite fille dont elle parle régulièrement sur les réseaux.
J'ai droit à ma photo tous les matins.
Vous arrivez à la voir un peu ? Comment on gère plein de portefeuilles ?
C'est difficile, mais c'était toute ma vie comme ça, parce que j'étais aussi reporter de guerre. Je suis partie en Afghanistan, j'avais un bébé d'un an. Mais après, ce qu'ils retiennent, je pense que c'est qu'ils ont une maman engagée, qui est à la fois très très présente, même en plein conseil. Je décroche, et il m'arrive d'ailleurs même de conseiller au ministre des Affaires étrangères de décrocher quand il s'agit de leurs enfants.
Adja Labib disait dans un post récemment que son livre de chevet, c'est la biographie de Jacinda Ardern.
l'ancienne première ministre néo-zélandaise, qui prône une forme de gouvernance du care, de la bienveillance, et qui n'avait pas peur de montrer sa vie de famille.
Je pense qu'on a tous des chemins de vie, et j'ai l'impression que le mien, c'est d'ouvrir des portes. Parfois, ça fait mal, parce qu'il faut un peu y mettre de son épaule, parce que quand on a ouvert la porte, il faut encore se faire accepter par le monde qui s'ouvre à nous. C'était le cas pour moi un peu toute ma vie. Moi, on m'a mise dans une école, c'est vrai, de professionnelle. J'aurais dû être coiffeuse, je sais pas. Et puis j'ai raté, évidemment, parce que c'était pas fait pour moi. Il y a une volonté, en fait, de crier, en fait. Pourquoi on n'a pas les mêmes chances? Pourquoi on est regardé de travers? Et puis c'est sa peau, c'est ses cheveux. Moi, je voulais être blonde, évidemment. Quand j'étais toute petite, je veux dire. On se dit, ben, ça va être dur.
Hadja Labib raconte qu'elle a dû bagarrer pour faire du théâtre, pour aller à l'université, et que ces négociations de l'époque l'aident encore aujourd'hui.
J'ai eu des débats avec l'extrême droite italienne en leur demandant ben, « qu'est-ce qui coince chez vous? Comment est-ce que vous pouvez admettre qu'une femme qui a par exemple été violée ou qui est dans des circonstances particulières dans certains pays de l'Europe sont confrontées à un manque de structure et ne peuvent pas avorter ?» Je me souviens que certains invoquaient le déclin démographique. Je dis, si on commençait à mettre en place tout ce qui peut permettre à une femme d'avoir un enfant, la garantie qu'elle va garder son emploi, qu'elle va pouvoir mener une carrière, qu'elle va trouver une place en crèche, que son mari va pouvoir prendre un congé parental pour encourager les femmes à avoir des enfants plutôt que de leur interdire d'avorter. Parce que vous savez, les débats aujourd'hui au Parlement, c'est un peu du show. Beaucoup se font filmer et se servent de ces débats pour les mettre en ligne après et communiquer sur leurs réseaux sociaux. Ça biaise parfois le débat. Je leur ai dit à un moment donné, voyons-nous, mais à huis clos, sans caméra.
Si elle se retrouve là, c'est qu'en 2022, alors qu'elle est encore journaliste, elle reçoit un texto du président du parti de droite francophone MR qui lui propose le poste de ministre des Affaires étrangères.
C'était un choix extrêmement difficile. Je peux vous dire que je perdais quasi un kilo par jour pendant ma période d'incertitude où je pesais le pour et le contre. Mais je crois que quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'avais envie, peut-être comme tous les journalistes, de changer le monde, de le montrer tel qu'il est, de créer de la prise de conscience. Et je me suis dit, tiens, cette fois, on me donne les leviers directs qui auront peut-être plus d'impact encore qu'un documentaire.
Si on propose d'être ministre des Affaires étrangères, vous me conseillez quoi alors, au commissaire?
Essayez, mais accrochez-vous. Hein.
Accrochez-vous, Caroline.
Oui, vous, Fabienne, vous diriez oui?
Ah bah, bien sûr, évidemment. Oui, moi je vote pour vous, même si ce n'est pas la peine de voter.
Pour être ministre des Affaires étrangères.
Mais évidemment, ou commissaire. Je suis déjà un peu ministre des Affaires étrangères du 18-20.
Ah, c'est pas faux.
À la semaine prochaine, Caroline.